très belle journée à l'écoute d'Europe 1. Il est 13h.
Midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. J'ai une heure pour vous montrer que oui, la France bouge et que vous êtes les acteurs de ce changement dans vos entreprises, dans vos territoires, dans vos associations aussi. On met les voiles aujourd'hui sur Europe 1 grâce aux acteurs français du nautisme. Entre poids lourds et jeunes pousses, les idées ne manquent pas et nous font hisser haut les couleurs tricolores. À quelques jours des repas de fête, on passe à table aujourd'hui avec la maison Lafitte. 100 ans bientôt qu'elle fait du foie gras. C'est l'entreprise qui va bien, merci. Et puis donner entre particuliers plutôt que d'acheter, c'est un nouveau modèle et c'est celui que développe Give. C'est la solution aujourd'hui. C'est ça, la France qui bouge, et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
39-21, venez, on vous attend, le standard est ouvert, venez prendre l'air du large avec nous ce midi, Anissa.
Oui, venez poser vos questions aux invités de Raphaël Duchemin, venez réagir, venez témoigner si vous êtes vous aussi des amoureux de la mer. 39-21, c'est le standard d'Europe 1, et Twitter avec le hashtag Europe 1 Raphaël.
Nous vous emmenons au Salon Nautique aujourd'hui et si vous êtes passionné de bateaux, vous êtes évidemment les bienvenus car vous allez voir que le secteur est très florissant et que nous Français y sommes pour quelque chose. Pour accueillir nos invités à mes côtés comme chaque jour, Elisabeth Assayag, bonjour.
Bonjour Raphaël et bonjour à tous.
Et notre coach aujourd'hui, on n'a pas fait exprès mais oui, il est breton, il a le pied marin, c'est Mathieu Davy. Bonjour Mathieu.
Des maîtres, Raphaël.
Fondateur de Call a Lawyer. Alors, quand on parle nautisme, il y a une entreprise qui est incontournable en France. Et c'est celle que vous dirigez, Hervé Gastinel. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes à la barre de Beneteau depuis plusieurs années maintenant, trois ans au total. Ouais. Hein. Beneteau, c'est Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est là que l'entreprise est basée. Racontez-moi comment vous, qui êtes énarque, qui avez fait de la politique et qui êtes passionné de bateaux, vous avez tout lâché un beau jour pour prendre la direction d'un navire comme celui-là.
J'ai toujours dit que c'était mon dream job en fait, c'est-à-dire que j'avais le plaisir de naviguer à titre personnel, d'être propriétaire d'un Beneteau, ça aide. Et puis le fait de pouvoir diriger une aussi belle entreprise qui existe depuis 1884, qui est aujourd'hui leader mondial depuis la première année, c'est sa première année à ce poste, à ce rang. Et plein de beaux projets, c'est un groupe qui est en plein développement, en pleine expansion.
Quand vous êtes arrivé, il faut peut-être rappeler le contexte, hein, c'était la crise. Mmh. En tout cas, on essayait de sortir de la crise. L'activité avait chuté d'environ 40%. Il y avait eu un plan social. Comment est-ce qu'on fait quand on reprend un fleuron français comme ça? On se dit, on va y arriver, on ne peut que y arriver.
C'était un gros challenge parce qu'effectivement, l'entreprise était un petit peu figée, un petit peu bloquée sur elle-même. On sentait que les plaies étaient encore ouvertes. Quand on a de tels traumatismes, c'est très difficile de relancer les équipes. Et en même temps, on sentait que tout était là, présent, prêt à redémarrer. Et le premier challenge pour moi, c'était au fond de redonner confiance aux équipes et de relancer des projets innovants, motivants. Et on voit que ça repart très, très vite. Depuis maintenant 4 ans, le chiffre d'affaires a réaugmenté de 50%. Donc, on a redépassé en réalité le point d'avant-crise.
Vous avez aussi opéré un vrai changement, c'est la famille Roux hein, qui était là depuis le départ et qui était dans l'opérationnel,
qui est toujours là.
Mais vous les avez un peu freinés. Vous leur avez dit peut-être qu'il faut être un peu moins aux manettes et laisser faire autrement.
Oh, je dirais pas freiner, parce qu'on freine pas des entrepreneurs. Ils ont ça dans le sang, surtout en Vendée. Hein, c'est vraiment très présent. Non, je crois que c'était plutôt un concours de circonstances et puis surtout une alliance d'orientation stratégique complémentaire. On avait des choses à se dire et des choses à s'apporter les uns les autres. Et aujourd'hui, je dirais que cet attelage fonctionne bien.
Elisabeth, le marché nautique, c'est quoi en France aujourd'hui? Une photographie
Déjà, en 2008, c'est une industrie qui a subi de plein fouet la crise. Là, elle se relève difficilement. Et la particularité de ce secteur, c'est que c'est une industrie qui s'est développée à l'extérieur de tout système public avec des entrepreneurs comme vous, passionnés. Ce sont aujourd'hui 41 400 salariés dans l'industrie, dans les services nautiques. 5 400 entreprises font vivre ce secteur. Ce sont des ports de plaisance, des constructeurs, des motoristes, des équipementiers ou encore des loueurs de bateaux. 75% des bateaux sont vendus à l'export et on estime un chiffre d'affaires de un peu plus de 4,5 millions d'euros générés par le secteur, dont un tiers.
Ça change beaucoup de choses.
Les activités de négoce et de maintenance.
Vous avez beaucoup renouvelé aussi les produits. Je crois que presque la moitié en 3 ans.
44% oui, en 3 ans.
Vous avez réorganisé les marques. C'est vraiment une nouvelle manière de faire
Benetton. Ce que je vous disais tout à l'heure, je pense que ce groupe, il avait besoin et envie de se relancer, de bouger, de tenter des expériences nouvelles. Donc, c'est ce qu'on a fait.
Et c'est aussi, Elisabeth, un secteur qui recrute. Ça, on ne le dit pas assez.
Ah oui, c'est un secteur en bonne santé et ça recrute notamment dans le littoral atlantique. Mmh. Vous êtes ici présent. Vous êtes lancé récemment dans un plan de recrutement.
Deux plans de 500 CDI.
C'est ça, 500 CDI. C'est important de le souligner, surtout en ce moment. Sur la France, c'est énorme. Des constructeurs qui recherchent en permanence des ouvriers polyvalents, des menuisiers. Et puis, il y a aussi les bateaux électriques ou les bateaux connectés qui offrent de nouvelles opportunités à des techniciens, à des ingénieurs qui pourraient surfer sur cette vague de l'innovation. Et pourtant, il y a de la pénurie dans la main-d'œuvre.
Toujours, oui, c'est le paradoxe français, c'est qu'avec un taux de chômage qui est quand même aux alentours de 9%, on a du mal à recruter.
Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas les bons profils ?
Je pense que c'est d'abord notre responsabilité de rendre nos métiers plus attractifs. C'est ce qu'on fait par exemple sur le salon nautique. On a deux personnes qui recrutent à temps plein, qui sont là pour montrer les métiers. Notre chaîne YouTube aussi a servi à montrer la réalité de ces métiers, à les rendre plus attirants. Et puis derrière, je pense qu'il faut aussi proposer des profils de carrière, des perspectives de carrière qui soient stimulantes, et tout ça dans un environnement qui est celui de bateau, donc un environnement quand même valorisant et qu'on pousse évidemment pour réussir ce nouveau challenge qui est aussi celui de l'emploi. La formation également est un axe très important pour nous. On a plusieurs centres de formation qui servent à permettre à des gens qui ne sont pas forcément issus de notre industrie à s'y sentir bien.
Que dit notre coach, Mathieu Davy ?
Alors, le coach, l'orienté, est très heureux, évidemment, qu'on parle de voile, qu'on parle d'Atlantique.
Et de moteur.
Et de moteur, bien sûr. On est aussi indirectement victime d'une situation de succès, qui est qu'en 1966, il y avait 30 000 bateaux, aujourd'hui, il y en a plus d'1 million, et qu'on est face à énormément d'épaves. Il faut savoir que beaucoup de bateaux sont abandonnés, qu'on assiste un peu à des cimetières de bateaux, et donc on a un vrai souci de pollution. C'est d'ailleurs pour ça qu'une loi très récente a été votée, et qui vous rend vous-même aussi maintenant les constructeurs un peu responsables de cette situation,
très bonne chose.
Des déchets.
Et on voit l'avocat qui parle.
Il y a une association.
Mais je ne me sens pas en accusation.
Pas du tout. Mais le petit rappel à la loi, effectivement.
C'est important de savoir qu'aujourd'hui, le constructeur est responsable de ce qu'il met en service parce qu'il y a ces déchets qui sont considérables. C'est des gros volumes, évidemment, de carcasses qui sont jetées à la mer ou stockées dans des champs. Et la question que je vous pose, c'est est-ce que vous collaborez avec l'APER, cette fameuse association évidemment sur la plaisance éco-responsable ? Quelles sont les dispositions que vous, en tant que leader du marché, vous prenez ?
Non, c'est un sujet très important et je pense que la filière des industries nautiques dans son ensemble a un rôle sur tous les impacts environnementaux. Celui-là en est un, c'est celui de la déconstruction des bateaux en fin de vie. Même si nos bateaux, en réalité, peuvent durer quasi éternellement. Le problème, c'est aussi celui de l'entretien des bateaux et de certains propriétaires qui renoncent à naviguer, soit parce que les successeurs ne souhaitent pas le faire, soit parce que les goûts changent et l'âge aussi peut impacter l'usage des bateaux. Au-delà de ça, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est un rôle pionnier et leader au sein de l'APER. Les équipes du groupe Beneteau sont extrêmement impliquées. On a préparé en amont le nouveau système qui se met en place. On va y contribuer financièrement, puisqu'il y aura une éco-contribution qui sera à la charge des metteurs sur le marché, donc c'est bien nous. Et au-delà de tout cela, je pense qu'il faut aider à s'installer cette filière. Donc il y a un vrai gros travail. Il y a 25 000 bateaux là, qu'on s'est donné comme objectif à déconstruire sur les 2-3 prochaines années. Et donc c'est autour de ces enjeux-là qu'on va se battre maintenant.
On reste ensemble, Hervé Castinel, et avec vous aussi, Mathieu Davy. Je suis sûre que vous avez préparé plein d'autres questions pour nos invités qui arrivent dans un instant
bien sûr,
sur Europe 1.
Il est 13h09.
Europe 1.
Il fait voler les zodiacs sur l'eau et vient de décrocher le prix public de l'entrepreneur 2018. Sierre est français, son fondateur est avec nous sur Europe 1. A tout de suite.
Jusqu'à 14h sur Europe 1, la France bouge avec Raphaël Duchemin et ses invités. Et aujourd'hui, on découvre le nautisme français, très innovant le nautisme français. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission. N'hésitez pas à vos questions, vos réactions, vos messages. C'est dès maintenant au 3921, le standard d'Europe 1, et sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Toujours avec Elisabeth Assayag et avec notre coach Mathieu Davy, avocat et fondateur de Cole Lawyer, qui d'ailleurs a reçu le prix de l'innovation 2018, je crois, Mathieu, prix
Merci
du Barreau de Paris.
Merci d'en parler, Raphaël.
Bravo,
Merci.
Bravo. On est content. Vous savez que les innovations, ça nous plaît ici. Eh bien, justement, les innovations, il y en a beaucoup dans le monde du nautisme. Elles se multiplient. Il n'y a qu'à voir à quelle vitesse désormais filent les bateaux hein, de la route du Rhum ou du Vendée Globe. Beaucoup de techniques, de technologies et derrière, forcément, des idées, des hommes aussi. Bonjour Richard Forest.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le fondateur de Sierre. Alors, je crois que votre aventure commence vraiment il y a 2 ans. Vous décidez de faire voler les zodiacs. C'est une demande en fait qui émane d'un de vos clients, je crois.
Alors pas tout à fait. En fait, l'idée enfin, qui m'est venue, c'est que je ne comprenais pas que le folk est un concept centenaire,
oui.
1881 et des poussières.
Je ne
comprenais pas qu'on ne l'utilise que pour les grands skippers et qui nécessite une telle connaissance et expertise. Et je ne comprenais pas qu'avec les moyens actuels de l'électronique, de l'informatique et de tous les matériaux qu'on maîtrise, qu'on ne puisse pas aujourd'hui le transposer à monsieur et madame tout le monde comme moi, parce que moi je ne suis pas du nautisme. Je suis entrepreneur dans l'âme.
Oui.
Et en fait, l'idée est née un petit peu comme ça, en discutant avec des gens, avec quelqu'un qui était venu me voir pour chercher beaucoup d'argent pour faire voler un trimaran de course.
Oui.
Mais je lui avais dit, bah non, je pense que tu te trompes sur deux thématiques. C'est pas un problème d'argent, c'est un problème de techno. Et puis, je te trompes de marché, c'est pas la voile, c'est plutôt le moteur. Et l'idée est née comme ça.
Bon, et alors après, l'idée est née, qu'est-ce que vous en faites? Comment vous faites pour la transposer et qu'elle devienne réalité, si j'ose dire?
Il y a un petit peu de stratégie d'abord, hein, comme tout
oui,
entrepreneur. Quand on crée une jeune boîte et qu'en plus on sait qu'on va créer un concept, c'est éminemment difficile d'implanter un nouveau produit. Donc on s'est dit, d'abord, le foil, ça a existé sur la voile, il faut déjà qu'on se fasse connaître comme ça. Et puis en même temps, on a une très 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 bonne équipe de gens qui volent, mais il faut quand même acquérir nous-mêmes le savoir-faire. Donc on s'est dit, on va aller dans la voile, puisque c'est déjà connu du grand public. Donc la première année, on a fait une première mondiale, puisqu'on a été les premiers à faire voler un monocoque au grand large, en auturier. C'est-à-dire que un bateau qui vole 80 cm au-dessus de l'eau, sans électronique, pendant plusieurs heures. Et ça a beaucoup beaucoup fait connaître la marque, ça nous a généré vraiment une visibilité très très forte. Et pendant ce temps, très discrètement évidemment, on a travaillé sur le bateau à moteur, puisque l'idée était évidemment de démocratiser.
Alors justement, comment est-ce qu'on passe du foil sur le bateau à voile au foil sur le bateau à moteur? Est-ce que c'est différent? Est-ce qu'il y a une technique particulière?
C'est moins complexe, puisque le voilier est toujours dans un état instable, entre guillemets. Il est toujours plutôt sur une coque, puisqu'il y a la force vélique, enfin la voile, le vent qui vient le coucher un petit peu. Alors qu'en bateau moteur, on a quand même cet avantage d'être propulsé à l'arrière avec un moteur qui nous donne donc une propulsion très, très homogène.
Et plus en stabilité.
Et plus en stabilité. Mais néanmoins, on sait tous que dans la vague, on a un gros problème. Quand on est sur un semi-rigide, on rebondit sur les vagues.
Alors, vous avez résolu comment ce problème de rebond?
Eh bien justement, on s'est dit qu'en mettant les foils sous le bateau, en élevant simplement la coque de quelques centimètres, on parle de 20 à 30, guère plus, pour assurer une totale sécurité, parce que ça c'est un enjeu majeur de succès de l'entreprise, c'est d'être complètement safe. En élevant simplement le bateau à 20 centimètres au-dessus, on va écréter toutes les têtes de vagues, ce qui fait qu'on ne va plus rebondir dessus, mais on va plutôt aller naviguer avec elles, et donc beaucoup moins rebondir.
Le foil, en quelques mots, vous pourriez le décrire pour les béotiens qui nous écoutent et qui ne savent pas forcément à quoi ça ressemble.
Vous prenez la lettre C de l'alphabet, vous en mettez une de chaque côté du bateau en allant vers l'extérieur et vous laissez toujours la partie basse du C sous l'eau. Le foil est toujours sous l'eau et on utilise le principe aérodynamique de l'aile de l'avion. Donc en fait, notre bateau est très légèrement aspiré vers le haut, mais le foil reste toujours dans l'eau et donc la coque ne touche plus, c'est elle qui sort de l'eau.
Et ça fait 2 ans maintenant que c'est 3 ans maintenant que ça existe, c'est-à-dire que ces foils sont posés sous les zodiacs.
Voilà, on a négocié effectivement un partenariat avec Zodiac Nautique, avec Silinger. Donc on travaille aujourd'hui avec plusieurs marques, j'espère bientôt avec d'autres.
Ouais.
En tout cas.
Je suis très fort.
Et donc oui, en fait, on modifie des plateformes existantes avec des foils qui sont rétractables, ce qui permet à l'usager
d'arriver sur la plage, par exemple.
D'aller sur la plage, de le mettre sur sa remorque. J'avais vraiment exigé une chose, enfin deux choses, c'est que ça soit éminemment simple. Puisqu'un client ne va jamais acheter si ça n'est pas simple. Donc aujourd'hui, la commande la plus difficile chez nous, c'est d'appuyer sur un bouton pour baisser ou non les foils. Voilà, c'est tout ce que vous avez à faire. Et ensuite, la deuxième chose, il fallait que ce soit élégant pour que ce soit achetable et que ça ne change rien de ce qui a fait le succès du semi-rigide. Donc on peut aller sur remorque, on peut beacher ou se mettre à couple dans notre bateau.
Que dit notre avocat marin ?
Planer sur un bateau, c'est quand même un très beau projet.
Oui.
Tout ça sans drogue. Ça fera évidemment plaisir
à
nos amis marins.
Maître.
plus sérieusement, si hier c'est un champion, c'est un champion aussi pro-environnement, parce que vous avez justement le label Green Tech Startup.
Oui.
Mais je vais un petit peu vous enquiquiner.
En fait. J'ai
cru comprendre que vous aviez un partenariat en cours avec Suzuki.
Oui.
Pour de la R&D et de la
coopération, oui.
Alors que Suzuki dit en 2018 avoir falsifié des contrôles de pollution de certains de ses véhicules. Est-ce que ce n'est pas contradictoire pour un champion comme vous de l'écologie de vous associer avec une entreprise qui a quelques soucis environnementaux, si je puis dire?
Donc, alors d'abord, je découvre
Forest.
Ça.
Ouais. Voilà, vous voyez.
Voilà, je l'apprends. Déjà, le partenariat, il est plutôt au côté R&D pour justement qu'on travaille ensemble pour aller vers du plus green. Aujourd'hui, ce qu'on n'a pas dit, c'est que nous, on économise entre 30 et 50% de carburant. C'est du mesuré, hein, ce n'est pas du labo. 30 et 50% de carburant, puisqu'il n'y a plus de frottement sous la coque. Donc l'idée avec Suzuki et ainsi que Yamaha, qui est un deuxième partenaire, c'est de travailler à ce bateau du futur pour justement... parce que nous, on a des problématiques aujourd'hui d'optimisation de moteurs de propulsion, mm-hmm. Donc il faut bien travailler avec des grandes marques. Donc je pense que c'est peut-être justement pour contrebalancer ce petit
Si c'est souci. Le cas, c'est une bonne nouvelle.
Voilà, ce serait une bonne nouvelle. Pour rebondir, ouais, on reviendra peut-être après sur le green, je ne sais pas, mais j'ai d'autres choses à dire sur le green.
Oui, on va y revenir. Je vous propose de marquer une pause et de se retrouver d'ici quelques instants.
Il est 13h19.
Europe 1.
Emmener son bateau partout avec soi, c'est possible grâce à Tiwal et son bateau gonflable. C'est français et c'est sur Europe 1.
On prend le large aujourd'hui sur Europe 1 jusqu'à 14h. La France bouge et nous découvrons les innovations en matière de nautisme français. Et il y en a beaucoup. Vous pouvez bien sûr participer à cette émission. Vous savez, cette émission, c'est la vôtre. Vos questions, vos réactions, vos témoignages aujourd'hui. Si vous aimez prendre le large, vous aussi. 3921, c'est le standard d'Europe 1. Et Twitter avec le hashtag Europe 1, Raphaël.
Toujours avec Elisabeth Assayag à mes côtés. Et avec notre coach aujourd'hui, Mathieu Davy. On a tous, quand on était enfant, hein, souvenez-vous, eu un bateau gonflable pour aller s'amuser à la plage. Mais quand on est plus grand, le bateau, ça ne se transporte pas. Enfin, si, désormais, c'est possible. Bonjour Marion Excoffon.
Bonjour Raphaël Duchemin.
Merci
Bonjour
d'être avec nous. Vous êtes la cofondatrice de Tiwal. Vous vous êtes lancée en 2012. Alors, je crois que c'est justement une histoire d'enfant et de grand, une histoire personnelle qui vous a donné envie de créer ce bateau gonflable. Je dis bateau, je devrais dire voilier. Racontez-moi, vous faisiez de la voile petite et avec votre père, c'est ça ?
Voilà, exactement. Et petit clin d'œil donc à Hervé Gastinel, c'était donc sur un First 30 donc, de Beneteau. Bateau de mon grand-père, puis de mon père, sur lequel on a très 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 bon bateau. Et d'ailleurs, je navigue toujours dessus. Je peux pas m'en défaire.
On va pas le déconstruire, celui-là.
Non, je peux vous dire que... Et en fait, j'ai toujours navigué sur ce bateau depuis toute petite. Et puis, un jour, j'ai eu envie de piquer le bateau de mon papa pour aller naviguer seul et prendre le large seul. Et il a pas voulu. Bah non, il a pas voulu. Je comprends maintenant que j'ai une fille. Hein, je comprends pourquoi il a pas voulu que je parte seule en mer. Donc j'ai demandé une première année, une deuxième année, une troisième année. Et là, j'ai dit, écoute, papa, là, ça commence un petit peu à faire maintenant.
Puisque c'est comme ça, je vais faire mon bateau.
Exactement. Puisque c'est comme ça, je vais dessiner mon propre bateau et le fabriquer moi-même. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'étais, je suis donc designer industriel. Et donc, j'ai souhaité dessiner un bateau qui soit vraiment différent de ce qu'on voit aujourd'hui, un bateau sans contraintes.
C'est-à-dire pas d'anneau à avoir pour amarrer son bateau. Et alors, comment est-ce que comment vous arrivez à l'idée d'un bateau qu'on gonfle et qu'on dégonfle ?
Et ben, c'est bien simple. En fait, j'ai regardé un petit peu tout ce qui se passait dans le domaine de la voile. Mm-hmm. Donc, tous ces bateaux donc je parle plutôt de la voile légère, hein, oui. Ce qu'on appelle les dériveurs. Tous ces bateaux qui sont difficiles à agréer, parfois on met une heure à agréer son bateau. Il faut une cale de mise à l'eau, il faut un chariot de transport, il faut pouvoir le stocker aussi. Alors quand on le stocke dans le garage, ça demande de l'entretien, les bateaux vieillissent, s'abîment. Et donc mon souhait, c'était de dessiner un bateau vraiment sans contrainte, le bateau parfait en fait, et un vrai bateau. Et du coup, j'ai commencé à faire des recherches, pas mal de maquettes, et je suis arrivée sur un matériau qui s'appelle le drop stitch, qui est un matériau qu'on gonfle à haute
ça
pression.
Ça ressemble à quoi ce matériau ?
Alors, il faut imaginer deux parois de textile, et entre ces deux parois de textile, on a des fils qui sont tendus. Et donc, il faut imaginer comme une enveloppe avec ce matériau-là. On met la haute pression à l'intérieur, tous ces fils se tendent, et on a un matériau qui est très très rigide une fois gonflé. Ce qui est très intéressant finalement dans ce domaine-là, puisque une bonne carène, c'est une carène rigide. Et pour moi, ce qui était intéressant, c'est que du coup, on peut avoir un bateau qui peut rentrer dans des sacs, qu'on peut mettre dans le coffre d'une voiture, on peut mettre à l'eau absolument n'importe où. On n'a pas besoin de chariot de mise à l'eau, on n'a pas besoin de remorque, on peut n'importe quelle plage. Partir au large. Et l'autre intérêt également de ce matériau, c'est que c'est un matériau aussi qui apporte beaucoup de confort finalement. On est sur du gonflable, même s'il est assez, il est très rigide.
Oui.
Et du coup, c'est vraiment très très intéressant en termes de navigation. Et pour finir, c'est un bateau très simple.
Il y a une taille, il y a plusieurs tailles.
Alors, on est très très heureux de présenter là au Salon Nautique de Paris cette semaine le dernier bébé Tiwal qui s'appelle le Tiwal 2. Donc c'est un bateau donc.
Tiwal, c'est petite voile, hein. Je suppose.
Alors, écoutez, on peut l'entendre comme ça.
Des Bretons.
on peut l'entendre comme ça.
Je sais pas. C'est
après.
C'est à vous de nous dire.
Alors, en fait, Tiwal, c'est un nom qu'on a créé, un nom à consonance effectivement bretonne, qu'on peut comprendre partout dans le monde, prononcé partout dans le monde. Et notre objectif, c'était de remercier la Bretagne de nous avoir accueillis. Donc, il faut savoir qu'on est basé à Vannes, dans le golfe du Morbihan, et qui nous a accueillis pour développer ce projet et cette belle entreprise.
Vous en avez vendu un millier, c'est ça ?
Oui, 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 un millier dans le monde, dans plus de 50 pays dans le monde. On fait 65%.
Et tout est fabriqué en France ?
Non, tout n'est pas fabriqué en France. On aimerait beaucoup, mais par contre, on est très, très fiers de dire que 50% de nos fournisseurs sont en France et notamment en Bretagne. Alors, pas à Lorient, du côté de, par exemple, d'Arzal ou de la presqu'île de Ruys. Et c'est un vrai bonheur de travailler en proximité avec ces artisans.
Alors, que dit notre coach ?
D'abord, c'est un bonheur de mentionner le Morbihan, premier département de France, évidemment.
Qu'est-ce qu'il est,
évidemment, bravo, parce qu'on est dans l'avenir, pour le coup, véritablement. Et je me dis, en vous écoutant tous, que vous devriez travailler ensemble, parce que pourquoi pas des foils aussi gonflables qui viendraient surélever et feraient planer ces bateaux. Et puis, bah, peut-être que Bento va travailler avec vous pour faire évoluer aussi ces futurs
si
bateaux. Donc,
pour les foils en plastique,
travailler peut-être entre vous. Et puis, bah, vous avez compris ma marotte de la journée hein, sur l'environnement, comment s'assurer que ces matériaux-là soient biodégradables, soient résistants. C'est quoi votre position là-dessus ?
Alors d'abord, j'ai envie de dire une première chose, c'est que l'intérêt de ce bateau, c'est que comme il tient dans deux sacs, il tient aussi dans deux cartons. On fait 65% de nos bateaux à l'export et on est aussi très fiers de dire qu'on n'a pas besoin d'énormes containers pour envoyer ces bateaux partout dans le monde. Ensuite, j'ai envie de dire que la pratique de la voile, c'est aussi découvrir la nature, découvrir les côtes et profiter de cette nature. Et donc, c'est quelque chose de quand même de très important aussi pour sensibiliser, que ce soit les jeunes ou les plus grands. Et ensuite, au niveau du matériau, effectivement, c'est une vraie problématique auquel on discutait justement hier avec d'autres fabricants.
Et on va continuer à en parler ensemble ici même sur Europe 1.
Il est 13h28.
Europe 1.
On vous attend, hein, 39-21. Venez si vous êtes passionné de voile. Venez poser nos questions à vos questions à nos invités. Venez nous parler aussi de vos expériences. C'est Europe 1, c'est la France qui bouge. Europe 1.
Et jusqu'à 14h sur Europe 1, la France bouge avec Raphaël Duchemin et ses invités. Aujourd'hui, on s'intéresse, Raphaël, au nautisme français et ses nombreuses innovations. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission. 3921, c'est le standard d'Europe 1, Twitter avec le hashtag Europe 1. Et puis c'est l'occasion, cette émission, de vous rappeler que Nautique, le salon Nautique, a lieu jusqu'à dimanche, jusqu'au 16 décembre.
Oui, on vous attend toujours, hein, 3921, venez, nous sommes avec nos invités, notre coach aussi Mathieu Davy, avec Elisabeth Assayag. Elisabeth, je vais peut-être me tourner vers vous d'ailleurs, il y a quelque chose qui marche très fort, c'est la location de bateaux, c'est de plus en plus prisé par les Français.
Mais oui,
notamment.
Il y en a de plus en plus, des plateformes en ligne qui ont énormément fleuri, l'accès aux loueurs devient de plus en plus simple. Vous avez plusieurs entreprises françaises qui se sont mises sur ce marché, vous avez par exemple Click & Boat, c'est une start-up qui propose plus de 22 000 bateaux à travers le monde. Elle s'est lancée aussi récemment aux États-Unis. Elle s'est ouverte aux particuliers, mais aussi aux professionnels. Vous avez aussi E-Captain qui est destiné seulement aux professionnels. Et vous avez aussi l'entreprise Samboat. Ce sont des Bordelais. Et là, c'est une entreprise destinée aux particuliers.
Et certaines entreprises de location de bateaux françaises, entre particuliers, connaissent des jours heureux.
Et justement, c'est celle-ci dont je suis en train de vous parler, Samboat, la bordelaise qui a été rachetée récemment par Dream Yacht Charter. C'est une des plus belles réussites de ces dernières années. Elle existe depuis environ 20 ans. C'est le premier loueur mondial et le premier client de l'industrie nautique. Alors, ce n'est pas français, hein, ça a été monté aux Seychelles. Mais là, ils viennent de racheter la petite bordelaise Samboat. Elle achète entre 10 et 20% de la production annuelle des grands fabricants mondiaux.
La location de bateaux, c'est quelque chose que vous connaissez bien, Hervé Gastinel. Vous avez le sentiment que c'est quelque chose qui monte aujourd'hui. On a envie de partir en mer, nous, Français.
Oui, complètement. Et c'est vrai que ces nouveaux usages que vous décrivez, on le voit en poupe. Vous avez cité E-Captain, qui est une start-up digitale que nous avons rachetée. Hein, et on est, nous aussi, dans cette dynamique avec Ben of Boats, qui est la plateforme digitale du groupe Beneteau, pour justement pousser tous ces nouveaux usages. Inviter, pousser les gens à venir naviguer. On a aussi créé des formules nouvelles comme les Boat Clubs. Les Boat Clubs, ce sont des formules qui vous permettent de consommer de manière illimitée des bateaux sans en être propriétaire. Et donc, tout ça est très bon parce que ça mène de plus en plus de nouveaux pratiquants sur l'eau.
Vous êtes d'accord, Richard Fast?
Oui, tout à fait. Côté CIR, on a eu beaucoup de demandes de la part de ces nouveaux types d'entreprises qui proposent des services pour lesquels des bateaux aussi innovants que le nôtre, qu'on ne peut pas forcément se payer au quotidien.
Oui, d'ailleurs, il coûte combien votre bateau?
On est aux alentours de 70-80 000 euros, bateaux tout équipés, prêts à être mis à l'eau, mais ça reste des bateaux évidemment de haut standing pour l'instant. Les prix arriveront à baisser le jour où nos amis constructeurs de bateaux arriveront eux-mêmes à mettre dans les moules tous nos systèmes. Mmh. Et là, à ce moment-là, ça deviendra une option. Comme je dis souvent, aujourd'hui, on achète une voiture avec l'option parking automatique. Demain, j'espère que mon ami Hervé mettra l'option confort ou je ne sais comment il la marketera.
Il a dit qu'il y réfléchissait, hein, sérieusement.
Et voilà, et l'idée, c'est de travailler à deux.
C'est
avec...
l'avenir, hein, c'est sûr.
Oui, chez CIR, on en est convaincus.
Et nous aussi.
Voilà, et donc oui, l'idée, c'est de travailler demain avec des constructeurs, peut-être encore un petit peu tôt sur le marché, mais... pour que ça se passe sur la chaîne de montage et du coup, ça fera baisser les coûts de façon drastique.
Mathieu ?
Il faut préciser qu'on ne loue pas que le bateau, on loue aussi le skipper.
C'est ça, oui. Et donc ça va créer des emplois.
Et ça, c'est très intéressant parce qu'on est peu à savoir faire, finalement, savoir naviguer ou avoir son permis. Mm-hmm. Et ça fait venir des gens qui ont peur, qui ont l'appréhension de pouvoir naviguer, qui peuvent le faire avec un skipper qui est souvent le propriétaire en fait, du bateau lui-même et qui vous emmène faire un tour en journée. Ce qui est très intéressant pour pouvoir déjà commencer à apprendre la voile et découvrir aussi un bateau.
On avait une question de notre réalisateur Thomas qui est de l'autre côté de la vitre ici à Europe 1 et qui me parlait de Tiwal et qui me disait mais dis-moi, tu nous as parlé du bateau, du voilier gonflable, mais qu'est-ce qu'on fait du mât alors? Que devient le mât, Marion?
Eh ben c'est très simple.
Il va dans le sac aussi.
Eh ben il va dans le sac aussi. Tout tient dans les deux sacs. En fait, c'est un mât qui se démonte à mât en sac par 5 parties. Donc tout tient vraiment dans les deux sacs et vous pouvez embarquer ça partout dans le coffre de votre voiture ou même dans les soutes d'un voilier. Et puisqu'on parle de location de bateau, si
oui.
Je peux rebondir.
Bien sûr.
Eh ben pour nous, ça nous réjouit aussi beaucoup parce qu'en fait, quand on va naviguer sur ce type de bateau-là, des bateaux habitables, non seulement on a besoin de skippers, mais aussi de jouets au mouillage. Et on est très content d'avoir aussi fait quelques animations avec le groupe Beneteau pour des voiliers ou encore des bateaux motorisés. Notre Tiwal peut aussi être un toy au mouillage pour toute la famille et donc créer des souvenirs pour toute la famille.
Avec deux tailles, on ne les a pas données du coup tout à l'heure.
Oui, le premier bateau fait 3,20 m et le second fait 2,80 m. Et il rentre dans deux sacs encore plus petits. Donc vous pouvez mettre ça dans les soutes de votre voilier.
Merci à tous les trois d'être venus nous parler voile et nautisme aujourd'hui sur Europe 1. Le salon continue, hein, d'ailleurs, vous y retournez.
Jusqu'à dimanche.
Oui, absolument. Jusqu'à dimanche, et on pourra vous retrouver et faire de très belles découvertes françaises, bien sûr. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1.
Il est 13h37.
Europe 1.
C'est un des incontournables sur la plupart des tables françaises à Noël. Gros plan sur le foie gras. Aujourd'hui, l'entreprise Lafitte les fabrique depuis bientôt 100 ans. Et c'est l'entreprise qui va bien, merci.
Jusqu'à 14h sur Europe 1, vous écoutez La France bouge avec Raphaël Duchemin. Et chaque jour, vous découvrez des entreprises françaises qui vont bien. Celle d'aujourd'hui va vous mettre l'eau à la bouche.
Oui, cette entreprise, elle aura bientôt 100 ans. C'est une maison familiale. C'est la maison Lafitte. Bonjour Fabien Chevalier.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général depuis 9 ans maintenant. Et alors, vous êtes le premier à ne pas être justement de la famille Lafitte, parce que c'est une famille, c'est celle de Pierre, hein, au départ, qui jusqu'ici était aux commandes de la maison, c'est ça?
C'est la famille Lafitte qui a toujours dirigé la maison juste avant mon arrivée. Mais c'est toujours la famille Lafitte qui est propriétaire de l'entreprise.
Bien sûr. Racontez-moi, comment est-ce que Pierre Lafitte a commencé à faire du foie gras?
Oh, c'est un enracinement dans un terroir qui a bientôt un siècle, oui. Au départ, si vous voulez, Pierre Lafitte, c'était un métayer. Donc, ce qu'on appelle un métayer, c'était un petit exploitant agricole et qui a commencé à faire du commerce avec ses voisins et à vendre des produits du terroir à la gastronomie. Donc, les deux produits phares de l'époque, c'était l'ortolans et le foie gras. L'histoire de la maison, c'est ça. Et c'est pour ça que, grâce à ces deux produits phares, on est devenu le fournisseur d'un tas de grandes tables en France et puis après, à travers le monde.
Alors vous étiez dans la volaille depuis longtemps, mais pas du tout dans le monde du foie gras.
Et non.
Qu'est-ce qui fait que vous êtes tombé dedans?
Oh, je suis tombé amoureux d'une entreprise.
De la maison.
D'une belle dame qui a 99 ans dans quelques semaines, bientôt 100 ans, et qui est une vraie belle entreprise familiale, en effet. La quatrième génération a souhaité que quelqu'un soit à l'opérationnel, quelqu'un d'extérieur de la famille. Et ils m'ont proposé cela, voilà, 9 ans. J'ai relevé ce challenge-là. C'est vrai, c'est pas évident. C'est beaucoup de responsabilités. C'est beaucoup de responsabilités parce que tout simplement, il y a... D'abord, les salariés, bien sûr, qui attendent beaucoup de savoir
170
comment...
170 personnes, hein, c'est ça
170 salariés, oui. Et il y a surtout 80 producteurs aussi.
80 producteurs, toujours les mêmes, toujours la même fidélité dans le Gers, dans les Landes.
Surtout dans les Landes. Alors, on a la particularité d'être sous cahier des charges Label Rouge. Le cahier des charges Label Rouge, ça regroupe à peine 5% de la production de foie gras en France. La France est le premier producteur de foie gras au monde. Mais c'est une production un peu particulière, en effet, qui préserve un mode de production qui existait une cinquantaine d'années.
Et comment vous faites aujourd'hui pour traverser les différentes crises qui agitent le secteur? Alors, on a parlé du gavage des oies et des canards qui pose problème à certains. On a aussi eu, évidemment, tous les problèmes sanitaires. Comment est-ce qu'on fait quand on est une belle maison, une maison ancienne comme la vôtre, pour résister?
D'abord, il y a deux problématiques dans ce que vous venez de dire. Le problème sanitaire, il y avait une priorité, c'était d'être proche de nos producteurs. On a absolument été à côté d'eux pendant 2 ans, c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est d'abord les aider à se remettre en question sur un certain nombre de modes de production, tout en gardant l'essentiel, qui préserve la qualité, et les aider techniquement, les aider financièrement, mais les aider aussi moralement, parce que c'était des périodes assez compliquées où, l'année dernière, en 2017, il y a 30 semaines où on n'a pas pu travailler. 30 semaines sur une année, c'est beaucoup.
Dites-moi, les recettes n'ont pas changé ?
Oh,
il y en a des nouvelles. On a d'ailleurs, si vous nous suivez sur Europe1.fr, quelques beaux exemples avec nous.
Bien. Oui, les recettes, il y en a toujours des nouvelles. Hein. Tous les ans, à peu près. Alors, c'est vrai que les 2 dernières années...
Foie gras fumé, c'est ça, cette année?
Cette année, c'est le foie gras fumé, oui. Mais il y a des recettes aussi qui existent depuis presque la fondation de l'entreprise. Là, vous avez devant vous un foie gras millésimé. Un foie gras millésimé, c'est en fait un foie gras comme on pourrait faire un vin de longue garde. C'est un foie gras qui doit, un foie gras conserve, qui doit être maturé pour être, avant d'être consommé.
On a une question ou une remarque peut-être de notre coach Mathieu Davis.
Une double remarque, en fait un double problème. Le premier, c'est qu'on adore le foie gras.
Oui.
Ça, c'est pas un problème. Et c'est les fêtes. Et évidemment, ça c'est une partie de notre cerveau qui nous dit miam du foie gras. Et c'est comme ça, on est le premier pays à producteur et consommateur d'ailleurs. Le second problème qui en est plus un et qu'on ne peut pas ne pas évoquer, c'est la maltraitance animale.
Oui, c'est pour
le
gavage. Ça que je passais parler du gavage tout à l'heure.
Il y a quand même des règles pénales en droit français, il y a des règles communautaires sur l'alimentation des animaux. Il faut savoir qu'un foie, par le gavage, va décupler en taille, passer de 50 à 60 grammes à 450 voire 600 grammes, et qu'il y a donc fatalement des traces, des lésions, des blessures sur les animaux. Donc la question des labels, elle existe évidemment, oui, le label rouge, mais dans les labels, il y a quand même du gavage. Parce que finalement, le bio total, il interdit le gavage. S'il interdit le gavage, ça veut dire qu'il n'y a plus de foie gras.
Ouais, ça veut dire la condition, les conditions de traitement des animaux, c'est ça la question en fait. Hein.
Voilà, et donc vous vous placez comment? Parce que le label rouge prévoit le gavage, vous n'êtes pas non plus dans le bio total. Comment vous vous placez par rapport à la condition animale et au traitement de vos canards?
Alors écoutez, d'abord il faut respecter l'avis de tout le monde. Le foie gras c'est en effet un emblème de la gastronomie française. Les méthodes de production, label rouge c'est vrai, sont des méthodes traditionnelles où on a des beaucoup plus petits lots, on est beaucoup plus proche de nos animaux. Moi, je considère qu'on ne maltraite absolument pas nos animaux, bien au contraire. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut et de consommer ce qu'il veut. Je pense qu'un foie gras, ça ne peut pas être issu d'une autre méthode qu'un canard ou une oie gavée. Voilà. Donc, voilà, au cours des siècles, l'homme, il a produit des aliments. La poule n'était pas faite pour pondre un œuf tous les jours. La vache n'était pas faite pour produire du lait tous les jours. Le canard, c'est une méthode. Faut toujours avoir en tête que l'engraissement du foie est un phénomène naturel. C'est ce qui servait aux animaux, aux oiseaux, pour faire les migrations. Hein. Donc on a utilisé, en effet, comme on utilise dans d'autres productions.
Vous avez exploité ce système.
On a utilisé ce système comme on utilise dans d'autres productions. C'est emblématique d'une gastronomie aujourd'hui qui est reconnue mondialement. La gastronomie française ne serait pas la gastronomie française sans le foie gras.
C'est une question de choix finalement. Hein, voilà. Ceux qui choisissent d'en consommer et ceux qui préfèrent pour des convictions différentes parfois en manger ou ne pas en manger. La Maison Lafitte, elle est là. Et bien là, 170 personnes qui travaillent, 100 ans bientôt. Oui. C'est une belle maison.
Oui.
Et c'est l'entreprise qui va bien. Merci aujourd'hui. Merci d'être venu nous en parler.
Merci à tous.
Il est 13h47.
Europe 1.
Donner plutôt qu'acheter, c'est la solution aujourd'hui à quelques jours de Noël sur Europe 1. Ça s'appelle Give, G2EV. À tout de suite.
Et jusqu'à 14h, la France bouge sur Europe 1 avec vos invités Raphaël Duchemin. Et tous les jours, juste avant 14h, vous nous présentez la solution du jour.
Et plutôt que d'acheter ou de revendre ces cadeaux de Noël, si l'on se mettait au don, Elisabeth, c'est ce que propose Give, la première plateforme de don d'objets entre particuliers.
Oui, tout commence à la suite d'un énorme succès sur Facebook. Le groupe sur le réseau social, ça s'appelait Adopte un objet. Énorme succès, énormément de participants. Et c'est comme ça que les entrepreneurs ont choisi le don comme modèle économique de leur entreprise. Give, G-E-E-V, qui a choisi donc de miser sur le don entre particuliers. Donner, échanger des livres, des vêtements, de l'électroménager, des meubles. Tout est gratuit et cette start-up a levé tout de même 3 millions d'euros.
Bonjour Florian Blanc.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des cofondateurs. Racontez-nous comment ça se passe quand on veut s'inscrire sur Give.
Alors c'est très facile. Donc Give, effectivement, donc G-E-E-V, c'est une plateforme de dons d'objets entre particuliers. Ça existe sur mobile, donc il y a une application Android, iOS. C'est très facile à télécharger, on s'inscrit en quelques clics. Et depuis quelques semaines, ça existe aussi sur une version web. Donc voilà, on peut consulter vraiment la plateforme web, mobile, de manière très très simple.
Mais vous avez levé 3 millions d'euros, hein, mais à quoi ça sert puisque tout est gratuit? Puisque le principe, c'est de donner.
Et exactement. Alors effectivement, on a fait une levée de fonds qui nous permet de nous développer. Parce qu'en fait, ce dont nous, on s'est rendu compte, c'est que le potentiel d'objets, en fait d'objets chez nous et que l'on n'utilise plus et qui souvent, bien souvent se retrouvent aux encombrants, dans les décharges, etc. Il est énorme. Alors j'étais tombé sur un chiffre, on stocke, un foyer stocke en moyenne 6000 objets chez lui,
qui
un foyer
français.
Qui ne servent à rien. Beaucoup ne servent à rien. Là, on sort d'une période où il y avait le Black Friday il n'y a pas très longtemps. On arrive à la période des fêtes, donc où les gens vont se faire beaucoup de cadeaux et c'est très bien. Mais du coup, on va accumuler encore beaucoup d'objets. Et du coup, beaucoup ne nous serviront plus. Et au lieu de les jeter ou de les stocker inutilement dans ces placards, on peut très facilement les donner. En plus, on va faire plaisir à quelqu'un.
Mais vous dites que vous voulez vous développer, mais de quelle manière on se développe? En fait, ma question, c'est pourquoi vous avez besoin d'argent?
En fait, cette plateforme qui, effectivement, le but, c'est qu'elle soit très simple pour l'utilisateur, il faut la développer. Donc, effectivement, c'est des applications mobiles. On a des développeurs qui travaillent tous les jours à développer des nouvelles fonctionnalités pour rendre l'expérience la plus fluide et la plus simple possible. On a développé un site web. On veut se développer le plus possible en France parce qu'aujourd'hui, on a 1,5 million d'inscrits, mais on est des perpétuels insatisfaits. Donc, on veut que demain, tout le monde utilise notre plateforme. Et puis aussi, on se développe déjà à l'international, puisqu'on est présent déjà au Canada.
Une question du coach?
Vous êtes bien sûr une plateforme de mise en relation, donc vous n'avez aucune responsabilité sur les objets eux-mêmes. Mais moi, je pense à quelque chose, je pense au recel des cambriolages.
Aïe,
me dis, évidemment, comme pour, d'ailleurs, ça touche aussi des brocanteurs ou des antiquaires qui ont ce problème, qui retrouvent des objets, du mobilier qui a été volé.
Donc, comment
faire
le tri?
Et ça peut devenir, en fait, un outil de blanchiment magnifique pour des cambrioleurs, de les faire passer par des dons et de les faire circuler et de les remettre sur le marché de manière clean. Pardon, c'est un peu tordu, je suis avocat. Hein. Mais est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez réfléchi à essayer au moins de traquer vos objets et ce qui circule sur la plateforme?
Alors, effectivement, nous, on fait de la mise en relation entre particuliers. Donc, c'est strictement du don et pas de revente. Donc, le risque est peut-être un peu plus limité. Et en fait, nous, il y a vraiment quelque chose qui est ultra important pour nous et pour que la plateforme fonctionne et que les utilisateurs nous fassent confiance, c'est la sécurité. Donc en fait, on modère 100% du contenu qui est posté sur la plateforme. Mmh. Donc aujourd'hui, c'est 100 000 annonces par mois. Donc tout est modéré. Il y a une messagerie aussi interne qui permet aux utilisateurs de se parler entre eux. Il y a des profils utilisateurs avec des notes et avis qui permettent d'instaurer de la confiance. Mmh. Donc voilà, on a quand même introduit beaucoup de mécaniques qui sont adaptées à cet usage du don.
Sachant que le risque zéro n'existe pas.
Le risque zéro n'existe pas, mais je pense qu'il est très limité.
Ça s'appelle Give. Vous avez échangé combien d'objets comme ça depuis que vous existez?
Alors, on a eu plus d'1 million d'objets qui ont transité via la plateforme depuis. Et donc, on a lancé l'application en avril 2017. Ça fait un peu plus d'un an et demi.
Et donc, c'est une bonne idée pour Noël, évidemment. Merci d'être venu nous en parler.
Merci à vous.
On se dit à bientôt, Mathieu.
Et
nous, on se dit à lundi, évidemment,
à lundi, Raphaël.
Pour la dernière semaine avant les vacances de Noël.